Chapitre 10. La grande crainte de Madame de Mussidan, en pensant à sa fille, avait toujours été que Geneviève ne se laissât gagner par l'amour de la chimère, le besoin de paraître, l'ostentation, l'orgueil, le dédain d'aujourd'hui, la confiance du lendemain, l'horreur du travail qui était la caractéristique de la famille. Jusqu'à ce jour, l'enfant, loin de justifier ses craintes, leur avait au contraire, à chaque instant, à propos de tout, donné des démentis. On ne pouvait être plus simple qu'elle, plus modeste, plus travailleuse. Mais elle n'était qu'une enfant. N'était-il pas possible qu'au moment où cette enfant allait devenir femme, de grands changements se fissent en elle? C'était l'âge critique. Que fallait-il pour que le côté Mussidan prît le dessus? Un rien, un mot imprudent, un mauvais exemple, une leçon maladroite. Alors, que deviendrait-elle, la chère mignonne? Sa vie serait-elle ce qu'avait été celle de son père, ce qu'était celle de ses frères? C'était assez, c'était trop de cette expérience. Elle voulut donc empêcher Geneviève de sortir une seconde fois avec sa belle-sœur. Mais quand elle essaya de faire comprendre à son mari que Geneviève pouvait très bien rester quelques jours sans sortir, il se fâcha. « Je veux que ma fille sorte avec sa belle-sœur, » s'écria-t-il. « Elle n'a qu'à gagner dans la compagnie de la vicomtesse, qui est une femme intelligente, une femme de goût. Votre jalousie est ridicule. »« Ma jalousie ? De quel nom voulez-vous que j'appelle le sentiment qui vous ferait compromettre la santé de mon enfant, si je n'étais là, Dieu merci, pour la protéger dans cette circonstance, comme dans toutes d'ailleurs ? Et vous croyez l'aimer ? Pauvre petite, que deviendrait-elle si Dieu me rappelait à lui ? Heureusement, je vivrai assez longtemps, je le sens, pour assurer son avenir. Elle se promènera tantôt avec Clara, je le veux. » Il n'y avait pas à résister, au moins ce jour-là, et quand la belle-sœur était arrivée, Geneviève était prête. « Eh bien, » demanda la vicomtesse à Geneviève, lorsqu'elles se trouvèrent seules dans la rue, descendant vers Paris. « As-tu pensé à ton chapeau ?»«
Quel chapeau ?»«
Comment quel chapeau ? Mais celui que tu as essayé hier ?»«
Ma foi, non, pas du tout. »«
Et aux bijoux de Beaugrand et de son père ?»«
Non. »«
Alors c'est de la robe en foulard rouge que tu as rêvé ?»
« Ah non, par exemple !»«
Et la colonelle Chamberlain, l'as-tu revue passer devant toi ?»«
Non. »«
Et la duchesse de Maurras ?»«
Pas davantage. »
Et Geneviève se mit à rire, trouvant très drôles les questions de sa belle-sœur. Celle-ci se fâcha. « Alors, qu'est-ce que tu as fait ? » demanda-t-elle d'un ton dépité.
« Ah, voilà, Monsieur Faré est venu hier soir. »«
Gardénia ?»
Geneviève ne releva pas ce gardénien qui voulait être dédaigneux, elle continua.
Il nous a dit des vers qu'il venait d'achever, et moi, je lui ai joué la ballade en sol mineur de Chopin. Il avait besoin d'entendre un morceau difficile, et je vous assure que celui-là n'est pas commode. Alors, toute la nuit, j'ai rêvé de la difficulté de la ballade et du charme de ses vers, mêlant tout, brouillant tout, comme si la musique avait été faite sur les vers. Et voilà, je n'ai pas eu le temps de penser au chapeau de 180 francs, à la robe de foulard rouge, à la colonelle Chamberlain, ni à la duchesse de Maurras.
Elle était faite pour te toucher, cependant, l'histoire de la duchesse.
En quoi donc?
En ce qu'avant que le duc l'épousât, elle était dans une situation qui ressemblait à la tienne. Elle avait un père, des frères dans la misère. Un nom, pas le sou. Et elle n'a eu qu'à se marier pour faire le bonheur des siens.
Elle était d'âge à se marier.
Comme toi.
Je suis donc à un âge où l'on peut penser à m'épouser, dit Geneviève avec un élan de joie.
Clara crut qu'elle avait réussi.
Mais certainement, dit-elle, tu as tout pour qu'on pense à t'épouser. L'âge d'abord, car il ne s'en faut plus que de quelques mois pour que la loi te permette de te marier. Puis, ensuite, la beauté, le charme, la tendresse, car tu es très tendre.
Oh oui !
Ce mot lui échappa, mais elle n'en dit pas davantage.
Tu dois savoir cela, continua Clara, et tu n'es pas sans avoir remarqué l'impression que tu produis.
Geneviève hésita un moment, comme si elle balançait sa réponse. Mais cependant, elle ne dit rien. Je sais, moi, quelqu'un sur qui tu as produit une impression profonde.
Quelqu'un ? S'écria-t-elle. Il vous l'a dit ?
Il ne me l'a pas dit, mais je le sais, et ce quelqu'un ne demanderait qu'à faire de toi sa femme.
Ah !
Elle était dans un état de trouble qui donna bon espoir à la vicomtesse. Évidemment, elle ne demandait qu'à se marier, et dans ces dispositions-là, il devait être facile de lui faire accepter le marquis.
Un homme qui porte un beau nom, continua-t-elle, qui est dans une grande situation, qui possède une superbe fortune, ce serait pour toi un mariage splendide.
Elle marchait en se donnant le bras, et aux contractions de la main de Geneviève, lorsqu'il avait été question de la profonde impression produite sur quelqu'un, la vicomtesse avait senti combien la petite sœur était émue. Mais subitement, et au moment où elle avait commencé à indiquer quel pouvait être ce quelqu'un, cette main était devenue inerte. Il fallait donc être circonspecte et ne pas aller trop vite.
« Tu veux faire le bonheur de ta famille, n'est-ce pas ? » dit-elle. « De ton père, de ta mère, de tes frères, et tu dois comprendre que cela n'est pas possible avec ton talent, si grand qu'il soit. Cela ne peut se réaliser que par un beau mariage. Eh bien, dans ta position, un grand mariage ne se rencontre pas tous les jours. Il faut le saisir quand il se présente, et il se présente. Quand je t'ai parlé, hier, de la duchesse de Morasse, ce n'était pas proposant l'air. Je voulais que tu comprisses comment on peut devenir heureuse et brillante quand on croit ne faire que le bonheur de ceux qu'on aime, et je m'imaginais que cet exemple te donnerait à réfléchir. Car enfin, tu vaux mieux, bien certainement, que ne valait la duchesse avant son mariage. Tu aimes ton père mieux qu'elle n'aimait le sien. Tu es plus généreuse, plus dévouée qu'elle ne pouvait l'être. Ce qu'elle a fait pour ses parents, tu peux bien le faire pour les tiens, et même, étant donné ton caractère, il me semble que tu dois être heureuse de le faire.
« Mais qui ? De qui s'agit-il ? » demanda-t-elle.
« Je te l'ai dit, un homme qui porte un grand nom et qui, de plus, est célèbre par son élégance, par sa distinction, qualité que n'ont pas les tout jeunes gens, bien entendu. Aussi n'est-ce pas un tout jeune homme. Mais ton père non plus n'était pas un tout jeune homme quand il a épousé ta mère, et son âge n'a pas empêché ta mère de l'aimer. Enfin, c'est le marquis d'Arlanzon.
Le marquis ? Dit Geneviève avec stupéfaction.
Eh bien quoi, le marquis ? Connais-tu beaucoup de gens qui le vaillent ? Crois-tu que le duc de Morras était aussi bien que lui ?
Mais qu'est-ce que cela me fait à moi, le duc de Morras ?
Cela te ferait que si tu étais la jeune fille que je croyais, il te serait un exemple. Mais si tu mets ta fantaisie et ton caprice avant la tendresse filiale et le dévouement à tes parents, cela ne te fait rien. Refuse le marquis, si tu veux. Moi, cela m'est bien égal. Seulement, avant que tu puisses faire un autre mariage qui vaille celui-là, ton père peut mourir et mourir dans la misère sans que tu aies rien fait pour adoucir ses derniers jours. Le pauvre homme, lui qui t'aime tant.
Elle resta sur ce mot, et pendant toute la promenade, elles marchèrent côte à côte sans échanger une seule parole. Geneviève était trop émue, trop bouleversée pour rien trouver, et Clara voulait la laisser à ses réflexions. Ce fut seulement en revenant et au moment où elles approchaient de Montmartre qu'elle reprit l'entretien.
« Qu'il soit entendu, dit-elle, que je ne t'en veux pas de la façon dont tu as accueilli mes paroles. Je comprends qu'elle t'ait surprise, mais tu réfléchiras et tu verras que je t'ai parlé en ami, dans ton intérêt, dans celui de ton père et de ta mère. Tu ne peux pas avoir à ton âge l'expérience qu'on a au mien. Maintenant, je ne te donnerai qu'un conseil. Jusqu'au moment où ces réflexions se seront faites dans ton cœur, sois prudente, ne compromets rien. » Il est probable que tu verras le marquis d'ici peu de temps. Sois avec lui comme si tu devais l'accepter pour mari, comme si tu le désirais. Cela ne t'engage à rien, car tant que tu n'auras pas dit oui, tu pourras dire non. Ce qu'il faut, c'est simplement que tu te prépares le moyen de dire oui. Pour cela, que faut-il ? Bien peu de choses, presque rien. Ne crains pas de le regarder avec des yeux un peu tendres. Cela n'est pas difficile. S'il te prend la main, ne la retire pas brusquement. Laisse-la dans la sienne. Et s'il te presse les doigts, ne te défends pas. Recherche-le. Va à lui. Parle-lui la première. Écoute-le attentivement en lui souriant,
comme si tu prenais un plaisir extrême à ce qu'il dit. Je te répète que cela ne t'engage à rien. Toutes les jeunes filles sont ainsi, sans que cela tire à conséquence. En tout cas, dis-toi bien que le marquis est un ami de ton père, le seul ami qui lui reste dans le grand monde, et que si un jour tu dois le refuser, il ne faut pas que ce refus le fâche. Pour cela, il faut que tu sois aimable et gentille avec lui, aussi gentille que tu peux l'être.